Merci Seigneur, oui, nous te remettons ce temps, Saint-Esprit, que tu sois vraiment au centre de la parole qui va être dite, qui va être proclamée. Seigneur, nous voulons être attentifs, que nos cœurs soient totalement ouverts, que nos yeux spirituels soient peut-être totalement ouverts à ce que tu veux nous révéler ce matin, à ce que tu veux travailler encore dans nos cœurs, à ce que tu veux restaurer. Alors Saint-Esprit, prends toute la place, Jésus soit au centre et que tout soit pour ta gloire, Père. Amen. Bonjour à chacune et à chacun, tous ceux que je n'ai pas salués ce matin. C'est un bonheur d'être avec vous ce matin. C'est un bonheur parce que le Seigneur conduit toutes choses. Il conduit toutes choses et j'ai confiance dans le Saint-Esprit. Même si je ne comprends pas tout, même si parfois je ne comprends même rien, je sais que lui ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard, tout est cohérent. Tout est cohérent dans l'esprit. Sauf que nous, le Seigneur nous a fait esprit, âme et corps, et charnellement parfois, dans notre âme, il y a des choses qui viennent contredire ou en tout cas se mettre en défaut par rapport à ce que l'Esprit dit, et l'Esprit est vérité, et c'est à ça qu'on veut s'attacher. Alors merci Pierre-Antoine pour ce que tu as introduit, c'est complètement aligné avec ce que je vais partager ce matin, et ce qui est aligné aussi, c'est ce que nous avons chanté, et ce qui est aligné aussi, c'est tout ce qui a été partagé pendant ces derniers mois, ces dernières semaines au sein de notre assemblée. Ce matin, j'avais envie d'honorer ça, d'honorer ce que le Saint-Esprit a déposé dans le cœur de nos frères et de nos sœurs, pas simplement de l'équipe de responsables qui a ici peut-être plus la parole, mais en tout cas, on est très fréquemment bénis parce que les frères et les sœurs qui prennent la parole dans cette assemblée viennent nous déposer. Parce que je crois sincèrement que le Saint-Esprit, je le disais en introduction, ne fait pas les choses au hasard. Et je crois qu'il inspire tous ceux qui prennent la parole dans cette assemblée. Et qu'il a donc quelque chose à nous dire, à nous révéler, à nous confirmer, peut-être à corriger. Voilà, cet été, beaucoup sont intervenus et je voudrais les honorer et honorer le Saint-Esprit à travers eux. On a eu Anaïs dernièrement, on a eu Cyril, on a eu Marie-Jo, je crois que Pierre-Emmanuel aussi est intervenu, Isabelle au mois de juillet, Romain, Olivia, je voudrais oublier personne. Il y a eu encore avant Gabi et Anna, notre sœur Anna. Et ce que je voudrais vous partager ce matin, il prend la genèse à ce moment-là. En fait, je voudrais partir de ce que notre frère Gabi avait partagé il y a quelques mois déjà. Je pense que vous vous en souvenez, le titre de son message et ce qu'il avait partagé, et en tout cas la question qui avait été déposée sur son cœur par le Seigneur, c'est « Qu'as-tu à combattre que je n'ai déjà vaincu ?» Vous vous souvenez? Et aujourd'hui, j'aimerais prolonger cette pensée avec une autre question que le Saint-Esprit m'a soufflée il y a quelques mois déjà, alors que notre sœur Anna nous avait partagé un magnifique message sur la tendresse de Dieu. Vous vous souvenez, le Saint-Esprit lui avait inspiré ce message, lui avait inspiré aussi cette magnifique linogravure qu'elle nous a offert par la suite. Et voilà, c'était un dimanche matin et ce message m'avait vraiment impacté, personnellement. Et je crois que d'autres avaient aussi été bénis par ce message. Et l'après-midi, le dimanche après-midi, on est dans un temps de repos, vous savez, ces temps où on se pose, où on médite un peu ce qu'on a entendu le dimanche matin. Et le Saint-Esprit vient comme ça dans ce temps de repos et vient susciter une question dans mon esprit, une autre question par rapport à ce message. Et la question qui est venue est la suivante, et ce sera le titre de mon message. Quel amour cherches-tu à gagner que je ne t'ai déjà donné ? Quel amour cherches-tu à gagner que je ne t'ai déjà donné ? À travers ces deux questions, il y a une réalité, deux réalités. Christ a déjà vaincu. Ça, c'est la première réalité de ce que le frère Gabi nous a partagé. Et la deuxième, l'idée que le Seigneur a aussi déjà tout donné. Tout donné. Et cette question, elle m'est venue sans doute pour montrer que parfois, nous vivons tous, et je me mets en tête de file, comme si tout n'avait pas été encore accompli. Souvent, on combat pour obtenir une victoire qui a déjà été acquise. Souvent, on court pour obtenir un amour qui nous a déjà été donné. Souvent, on cherche à être accepté alors que on a déjà été adopté. On cherche à être pardonné alors que la croix a déjà tout fait, elle a déjà parlé. On cherche à être aimé alors que Dieu nous a prouvé tout son amour déjà à Golgotha. Et pourquoi il y a ces contradictions ? Cette question que je me suis posée, parce que si le Seigneur m'a suscité cette question, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Parce que je crois qu'il y a parfois un décalage entre ce que Dieu a accompli dans notre esprit, ce que Dieu a accompli dans notre esprit, et ce que notre âme, c'est-à-dire nos pensées, c'est-à-dire nos émotions, c'est-à-dire notre intelligence, nos conceptions, etc., continue, elle, de croire. La parole nous dit que lorsqu'on est né de nouveau, notre esprit a été renouvelé, complètement restauré. On a reçu cette révélation, mais nos pensées, elles peuvent continuer à nous accuser. Alors que notre esprit, il sait que nous sommes aimés. Nos émotions, elles continuent parfois de nous faire sentir rejetés. C'est vrai aussi. Mais notre esprit, il sait que Dieu est notre Père. Contradiction encore. Notre intelligence, parfois, elle continue de fonctionner comme si on était, comme si on était orphelin. Et c'est là que je voudrais nous conduire aujourd'hui, si vous le voulez bien. Parce que je crois qu'on a tous besoin, dans nos chemins de vie respectifs aujourd'hui, personne n'est à l'extérieur de cette réflexion. On est tous concernés. Et on a vraiment besoin, frères et sœurs, de se décentrer de nous-mêmes, de nous décentrer de nous-mêmes pour nous recentrer vraiment sur celui qui est la source, sur notre Père, sur le Saint-Esprit. Et sur le Fils qu'il a envoyé pour nous sauver. Je me souviens de Jérémy, quand tu étais venu, c'était une chaise, je crois, hein, où tu tournais autour et tu étais en insécurité et tu étais pas loin de tomber. Et puis finalement, tu t'es recentré comme ça sur la croix, tu regardais en haut et là, l'équilibre était revenu. Je crois que c'était une belle image et c'est ce à quoi on a besoin de revenir aujourd'hui. Parce que la croix, elle a ouvert un chemin jusqu'au Père. Alors on commence par la croix et on commence à rentrer dans la parole. Notre frère Pierre-Antoine a bien commencé, on a mangé la parole ce matin et on va continuer. Donc on va lire pas mal de versets, parce que je crois que la parole de Dieu, elle est importante à saisir, à comprendre, et on va continuer dans cette belle dynamique. Matthieu 27, au verset 50 à 51, nous dit... Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Pourquoi le voile était important dans le temple ? Il séparait le lieu saint du lieu très saint. Il y avait la présence de Dieu au-delà du voile. Et l'homme ne pouvait simplement pas y entrer, c'était simplement le grand prêtre, le sacrificateur qui pouvait y entrer, c'était impossible à quiconque. Il y avait risque de mort. Et la croix, elle est venue faire un acte cosmique incroyable. Le voile est venu se déchirer du haut vers le bas. Ce n'est pas une action de l'homme. Le voile, il se déchire. Ce n'est pas l'homme qui vient ouvrir le chemin vers Dieu. C'est Dieu qui fait cet acte, qui ouvre le chemin vers l'homme. Et c'est ça la grâce. Dieu dit, à ce moment-là, j'ouvre le chemin, tu n'as plus qu'à entrer. J'ouvre le chemin, approche-toi maintenant. Et à travers cette croix et ce voile déchiré, il y a un chemin qui s'ouvre. Il y a une vérité qui est en train d'éclore. Il y a une vie qui est en train d'éclore. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est à la croix que ça s'effectue. C'est à la croix, à ce moment-là, quand le voile se déchire. Et lisons dans Hébreux 10, 19, 22. Ce sont des versets incroyables de puissance, de ce que Dieu est pour nous, de ce qu'il a fait pour nous. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Les amis, notre vocation en tant que chrétiens, ce n'est pas d'être dans une religion qui nous apprend à monter vers Dieu, à faire des tas de choses qui vont lui plaire, des efforts inimaginables pour essayer de l'atteindre. Notre vocation chrétienne, c'est simplement de comprendre cette révélation d'un Dieu qui, en Jésus-Christ, est venu jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Ce voile déchiré, il signifie « Tu peux entrer. Tu peux entrer. » Pendant des siècles, je ne sais pas si vous imaginez quand même la grâce que nous avons d'être dans une dispensation où on a ce privilège. Pendant des siècles et des siècles, la présence de Dieu, c'était dans le tabernacle, dans le lieu très saint, c'était dans un temple. Et aujourd'hui, Jésus dit, Jean 14, 16, 18, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. » Il est là le bouleversement. Il sera en vous. Dieu ne veut pas simplement être à notre côté, simplement nous tenir par la main, simplement nous devancer. Bien sûr qu'il fait ça aussi. Mais Dieu, il veut habiter et il habite en nous. Est-ce qu'on peut prendre conscience? Est-ce qu'on peut prendre conscience de cette vérité fondamentale? Paul, il pose une question aux Corinthiens. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et un peu plus loin, au chapitre 6, il va dire, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc le Saint-Esprit vient habiter l'homme. Le voile est déchiré. La présence, elle n'est plus derrière un rideau. Elle est dans nos corps. Et peut-être qu'on ne le voit pas suffisamment, peut-être qu'on ne le sent pas, mais ça, ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit est venu en toi, il est venu habiter en toi, et ça, c'est la vérité de la parole de Dieu, et c'est la seule qu'on doit croire. Quelles que soient les voix qui peuvent venir s'élever dans tes pensées et te faire croire le contraire. Le Saint-Esprit vient habiter l'homme. Et c'est là que commence un vrai combat finalement, parce que Dieu habite en moi, oui, mais tout en moi n'est pas automatiquement soumis à Dieu. Et souvent on pense au combat spirituel, on pense à des choses extraordinaires, à chasser des démons, à combattre des démons, à chasser tout ce qui doit être chassé de nos vies, etc. Oui, toutes ces choses sont vraies, réelles et existent. Mais le vrai combat, il est dans nos pensées, il est dans notre tête. Il est dans nos conceptions, dans notre intelligence. C'est pour ça que Paul, à un moment donné, il écrit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Il écrit ça parce que mon esprit peut avoir reçu la vie de Dieu, il peut l'avoir reçu, il peut avoir été régénéré, on a été régénéré dans notre esprit, et par la foi on croit ça, qu'on est une nouvelle créature en Christ, mais mon âme, elle, parfois, elle continue aussi à fonctionner avec d'anciens schémas. Elle continue à fonctionner avec d'anciens schémas. Elle n'est pas soumise à ce que mon esprit a connu, a su, ce qui a été révélé en lui. Je relisais cet été un bouquin, c'est d'ailleurs un des premiers que j'avais pu lire au début de ma vie chrétienne, c'est L'homme spirituel de Watchman Nee. Peut-être que certains l'ont déjà lu, c'est un bouquin super intéressant, c'est vraiment très touffu, et il y a cette distinction en effet que Watchman Nee fait entre l'esprit, l'âme et le corps. Il dit que l'être humain possède un corps, il possède une âme, donc ce que je disais tout à l'heure, pensée, intelligence, émotion, volonté, et puis il possède évidemment un esprit qui est ce lieu de la communion, de la communication avec Dieu. Le lieu très saint qui est en nous. D'ailleurs, c'est... Dans la parole, c'est très clair, hein. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Écriture distingue bien ces dimensions, et Hébreux 4, 12 va même encore plus loin en disant « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc ça nous montre, au minimum, que la Bible distingue bien ces choses et que l'esprit et l'âme sont bien deux réalités distinctes. Donc l'esprit, c'est le lieu de la communion avec Dieu. Romains 8, 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Intéressant. Intéressant, parce que si on regarde attentivement le verset, il est dit « Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. » L'Esprit avec un grand E, l'Esprit de Dieu donc, témoigne à notre esprit, l'Esprit qui est en nous, que nous sommes enfants de Dieu. On l'a suffisamment chanté, suffisamment déclaré ce matin. Donc on continue. C'est une révélation qui est extraordinaire. Dieu ne commence pas par convaincre mes émotions. Il commence par convaincre mon esprit. Et il dit, tu es mon enfant. Fin de l'histoire. Tu es mon enfant. Mais le combat, c'est ça. C'est que cette vérité-là qu'on a reçue dans notre esprit, elle doit venir dans notre âme. Elle doit venir imprégner notre âme. Parce que mon âme, elle peut dire, oui, mais... Regarde ton passé. Elle nous le dit tous les jours, en plus. Hein. Mais l'esprit répond... Tu es mon enfant. L'âme, elle peut dire, t'as échoué. Que dit l'Esprit ? Tu es mon enfant. L'âme, elle peut dire oui, mais alors les autres, ils ne t'aiment pas. Que dit l'Esprit ? Tu es mon enfant. C'est pour ça qu'on doit distinguer ce que dit l'Esprit, enfin, ce que Dieu dit plutôt dans mon esprit, et ce que l'âme veut encore essayer de grappiller. Parce que comme il y a une séparation entre les deux, et que parfois c'est étanche, l'ennemi, lui, il trouve l'ouverture et puis il vient semer la confusion dans nos pensées. L'accusateur des frères. L'accusateur des frères, c'est pas l'accusateur du monde, hein. C'est l'accusateur des frères. Donc il accuse au milieu même de l'Église. Il vient amener de la confusion, il vient amener de la condamnation. Mais faut pas... Jésus est venu pour le salut de nos âmes, donc notre âme, il ne faut pas la déprécier, c'est pas quelque chose de négatif. Notre âme, elle peut être sincère, mais elle peut se tromper, mais elle est quand même sincère. Ça, c'est important, de le saisir. Parce qu'une émotion, elle peut être réelle, elle peut être sincère, mais ce n'est pas nécessairement une vérité. La vérité, c'est l'esprit. Donc on peut se sentir rejeté, oui, alors que oui, on est aimé. On peut se sentir abandonné alors que Dieu est avec nous. On peut sincèrement se sentir indigne alors que Christ nous a justifiés. On peut sincèrement avoir peur, être dans la crainte, alors que Dieu nous a donné un esprit qui n'est pas un esprit de peur. L'amour parfait bannit la crainte. Et puis, Paul dit aussi que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, je ne méprise pas mes émotions, je ne les nie pas, mais je refuse de leur donner le dernier mot. Elles n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité de Dieu. Et donc lorsque ces deux sont en contradiction, et ben ma pensée, elle, doit être renouvelée. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que Paul dit, soyez transformés dans Romains 12, 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ce renouvellement de l'intelligence par l'esprit, il est essentiel. Si on veut que esprit, âme et corps soient alignés avec nous et avec Dieu. Dieu ne demande pas simplement de changer notre comportement, ça c'est la notion de repentance, bien sûr, la repentance, de faire le demi-tour pour nous tourner vers Dieu, changer de comportement. Mais il veut peut-être aussi, au même niveau, changer notre façon de penser, notre manière de penser. Là, il y a une puissance à saisir, à mon avis, frères et sœurs. Le renouvellement de l'intelligence, il est essentiel. J'ai lu ça et j'ai trouvé que c'était très vrai. Le Seigneur veut changer notre manière de penser à travers ce qu'il dit dans ce verset aussi. Parce que ce que je crois finit par orienter ce que je ressens. Ce que je ressens va influencer ce que je décide. Et ce que je décide va influencer ma manière de vivre, donc mon comportement. Le comportement, c'est la conséquence de tout ça. Et cette manière de vivre, elle n'est pas toujours à la gloire de Dieu. Donc ça commence par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est pourquoi Proverbe 4, 23 nous dit aussi « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources ou jaillissent les sources de la vie. » Donc attention à la pollution de la source. Et c'est ça qui est important de saisir, c'est que il y a peut-être, c'est peut-être la tragédie spirituelle la plus grave, c'est d'être enfant de Dieu et de continuer quand même à penser comme un orphelin. Continuer à vivre comme un orphelin. Pourtant, Jésus le dit lui-même dans Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. » Pourquoi cette parole ? Et on va en venir un peu au titre de mon message. Pourquoi cette parole ? Parce que Jésus, il sait qu'un orphelin, il n'est pas en sécurité. Il n'est pas en sécurité, il cherche constamment à sécuriser sa place. Il cherche constamment à prouver. Il cherche constamment l'approbation des autres. Il cherche constamment à être performant, à être accepté. J'ai connu personnellement dans ma vie un orphelin, ou du moins un garçon qui avait été élevé ni par son père ni par sa mère, et avec qui j'étais assez proche. Voilà. Et il avait ça. Constamment, il fallait prouver. Constamment, il fallait qu'il soit au-dessus des autres. Il fallait qu'il soit performant. Cet esprit d'orphelin, il crée des dysfonctionnements relationnels qui sont importants, qui minent une vie. Mais un fils, il n'agit pas comme ça. Un fils, il sait. J'appartiens à mon père. J'appartiens à mon Père. Et Romains 8, 15 le dit de manière magistrale, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Le Saint-Esprit ne vient pas simplement nous donner une puissance. Il ne vient pas simplement nous donner quelque chose de... Bien sûr qu'on aime les manifestations du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit, mais il vient nous donner avant tout une identité, les frères. Et les sœurs, bien sûr. Une identité. Il fait passer dans notre esprit cette vérité. Je suis un fils. Je suis un fils. Alors pourquoi est-ce qu'on continue toujours à chercher l'amour du monde ? Si cette réalité, elle est ancrée en nous, pourquoi est-ce qu'on cherche ça toujours ? Parce qu'il y a toujours cette dualité entre l'âme et l'esprit. L'âme, elle va chercher souvent ce que l'esprit l'a déjà reçu, en fait. L'âme, elle va chercher l'approbation, alors que l'esprit, ben, lui, il a reçu l'adoption. C'est tellement plus puissant. L'âme cherche l'approbation. Elle cherche la reconnaissance. Alors, bon, l'esprit, il a reçu une identité. Quelle plus grande reconnaissance que d'être enfant de Dieu. L'âme, elle cherche la sécurité, mais l'esprit a reçu un père qui, lui, nous sécurise. Et puis l'âme, elle cherche l'amour. Elle cherche l'amour. Et c'est ça que j'ai compris dans ce que j'ai prié, médité avec le Seigneur. Suite à cette question qu'il m'avait posée, l'Esprit a reçu cette révélation, c'est que Dieu nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. On aime bien Jean aujourd'hui, Pierre-Antoine. Peut-être parce que c'était le disciple préféré. Bien-aimé. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça, c'est un ordre, c'est un processus qui n'est pas neutre. C'est pas rien ce qui est dit là. L'ordre divin, c'est Dieu m'aime, donc je reçois, donc je suis transformé, et donc je réponds à mon appel. Alors que notre âme, elle a plutôt tendance à avoir un ordre un peu différent. C'est je fais, donc Dieu va m'aimer. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Lui, il nous a aimés le premier. Et les choses découlent ensuite derrière. Parce que pour entrer dans cet ordre divin, finalement, ben, j'entre par ce que le Seigneur a fait. J'entre par l'accès que Dieu a ouvert pour moi à la croix. La croix, oui, elle a enlevé notre péché. Et comme on le disait tout à l'heure, elle a aussi ouvert un chemin. Elle a ouvert ce chemin. La croix, c'est le lieu du pardon, oui, mais c'est aussi le lieu de l'accès. Et je vous invite vraiment à reméditer le verset qu'on a affiché tout à l'heure dans Hébreux 10, 19 à 22. C'est puissant. C'est puissant. Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. C'est une route nouvelle et c'est une route vivante. Et on a un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, notre avocat Jésus. Et on peut s'approcher de lui avec un cœur sincère. Quand on a un cœur sincère et qu'on s'approche de lui, avec une foi inébranlable, notre cœur, il est purifié. Il est purifié. Plus aucune condamnation, notre conscience, elle est purifiée. Notre corps, il est lavé d'une eau pure. Grâce à la croix, on entre dans la présence du Père. Grâce à ce voile déchiré, ce qui était inaccessible, ce qui nous était inaccessible, devient accessible tous les jours. Pas une fois par an en sacrifiant un bœuf, un taureau ou que sais-je. Tous les jours. Et le Saint-Esprit en plus nous dit « Je viens habiter en toi ». Je viens habiter en toi. Donc c'est ça la clé. La clé, c'est que l'esprit doit imprégner l'âme. Celui qui croit en moi, dans Jean, chapitre 7, verset 38-39, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Il dit cela de l'Esprit. Il dit cela à propos de l'Esprit dans cette traduction. Donc le Saint-Esprit ne vient pas simplement visiter. Il vient couler. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement une visitation du dimanche matin ou du samedi soir ou lorsqu'on entend un beau message. Le Saint-Esprit, il coule. Il coule. Et je voudrais vous donner une image, moi, qui m'a parlé. L'image d'une éponge. Vous savez, une éponge, quand elle est sèche, bon, elle ne sert pas à grand-chose. Elle est totalement sèche. Et puis, quand on la plonge dans l'eau, chaque fibre vient s'imprégner de l'eau. Elle s'imprègne, elle s'imprègne, elle s'imprègne. Et là, l'éponge, elle devient utile. Mais elle est surtout transformée. On peut la presser et l'eau vient couler, elle vient déborder. Est-ce que ce n'est pas une belle image, ça, pour notre vie spirituelle aussi ? L'esprit doit imprégner l'âme. L'éponge, elle ne devient pas l'esprit, elle ne devient pas Dieu. Nous sommes l'éponge. Et nous avons reçu l'esprit. Et l'esprit vient couler en nous. Et l'esprit vient nous imprégner. Nous pouvons être remplis de l'esprit dans notre quotidien. Remplis de l'esprit pour qu'il vienne déborder sur notre âme. Pour qu'il vienne imprégner notre âme et qu'on puisse déborder nous aussi pour les autres. Éphésiens 5, 18 nous dit « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Oui, remplis, pas simplement visités. Remplis. Parce que notre esprit, lorsqu'il vient parler à notre âme, les choses changent. Les choses changent. Notre âme, elle apprend à se soumettre à Dieu. Et nos pensées changent. C'est ça le débat. Il faut que notre âme se soumette à l'Esprit de Dieu qui habite dans notre esprit. Et lorsque l'Esprit remplit notre esprit et que notre âme, elle apprend à se soumettre à Dieu, les émotions, elles changent. Les décisions, elles changent. La manière d'aimer va changer. Notre manière de pardonner va changer. Notre manière de traverser les épreuves va changer. Toutes ces choses changent. Parce que l'Esprit a imprégné notre âme. Et c'est ça la grâce. C'est ça la grâce, les amis. Il y a une différence entre savoir que Dieu m'aime, on le disait, et vivre finalement la réalité en moi de cet amour de Dieu. Il peut y avoir cette différence. Je peux connaître doctrinalement la parole, être versé dans les Écritures et connaître parfaitement la parole, mais ne pas la vivre. Ça, c'est aussi une réalité. On déclare souvent des versets puissants, on les proclame. Et ces versets qui descendent dans notre cœur et qui viennent traverser notre esprit, est-ce qu'ils remontent dans notre âme? Pourquoi quand j'ai déclaré Romains 8, par exemple, 37 à 39, qui est d'une puissance extraordinaire? Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs, on le déclare tellement. Alors pourquoi, quand je suis rejeté, je peux m'effondrer? Pourquoi quand quelqu'un me critique, je lui cours après parce que je veux quand même son approbation? Pourquoi je peux connaître la grâce, mais finalement je peux déclarer ces versets aussi qui sont puissants et que je prie dans la vie de chacun de nous aujourd'hui? Mais pourtant, quand je tombe, je peux me condamner encore pendant des semaines. Pourquoi? Parce que cette vérité, elle est peut-être encore coincée là, dans l'intelligence. Elle est encore coincée. Elle n'a pas imprégné toute notre âme. C'est pour ça que Paul, il va dans Éphésiens, c'est verset, je ne sais pas si j'ai donné celui-là, c'est le chapitre 3, ouais parfait, 17 à 19. Paul va prier, il va faire une prière magistrale. Et cette prière, on peut se l'approprier. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Rempli de toute la plénitude de Dieu. Paul, il parle d'un amour qui surpasse toute connaissance, toute intelligence. Ça dépasse toutes nos conceptions, toutes nos compréhensions, tout ce qu'on ne comprend pas aussi. Mais il y a cette vérité de la parole, c'est que l'amour, il surpasse tout ça. Et qu'il est suffisant. Et cet amour doit être expérimenté. Parce que l'amour du Père, il est plus fort que la voix de l'accusateur, les amis. Il est tellement plus fort que la voix de l'accusateur. L'accusateur, il te dit, tu n'es pas assez bon. Mais le Père, il te dit, tu es mon enfant. L'accusateur, il peut te dire, tu as échoué, tu n'es pas digne. Mais le Père te dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, verset 9, doit devenir une vérité intérieure, les amis. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Curieux verset, quand même. La puissance accomplie dans la faiblesse. Comment est-ce que quelqu'un de faible peut dégager de la puissance? Mais ma grâce te suffit. Paul ne dit pas ma grâce te suffira lorsque tu seras devenu fort. Ne cherche pas à devenir fort pour entrer dans la présence de Dieu. Dieu dit ma grâce te suffit. Maintenant, aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu, pas demain quand tout ira mieux. Et ne regarde pas hier quand tout allait mal. Regarde à aujourd'hui. Ma grâce te suffit maintenant, avec ton histoire, avec tes limites, tes blessures, tes combats, tes faiblesses, tes questions, tes chutes. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et pourquoi ? Parce que la grâce, j'ai eu cette révélation il y a quelque temps, la grâce, elle me suffit parce que la grâce, c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu habiter en moi. Quand il y a eu cette œuvre à la croix, ce Christ mort pour nos péchés, ressuscité, qui est revenu à la vie, qui nous a offert la vie éternelle, ce qu'on appelle la grâce, et bien c'est Jésus qui est venu habiter en moi. Et donc revenons finalement à notre question pour conclure. Cette question initiale, quel amour cherches-tu à gagner que Dieu ne t'a déjà donné? Tu cherches l'amour de ceux qui t'ont rejeté? Écoute juste le Père, il te dit « je t'aime ». Est-ce que tu as besoin d'un autre « je t'aime » que celui de ton Père céleste? Tu cherches l'approbation de ceux qui te critiquent? Le Père, il te dit « tu es mon enfant ». Tu cherches à prouver ta valeur? Tu as été racheté à grand prix? Tu as été racheté à grand prix. Quelle autre valeur tu veux prouver? Tu cherches à être suffisamment bon? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et ma puissance accomplie dans ta faiblesse. Donc le plus grand changement, frères et sœurs, et je me l'applique encore une fois, c'est de passer de cette réflexion dans notre vie, passer de ces deux mots qui parfois nous polluent et nous encombrent, c'est « je dois »,« il faut que », mais ça faisait trois mots, j'en voulais que deux. Parce qu'à ces deux mots « je dois », il y a deux autres mots qui répondent. « Je suis ». « Je suis », les amis. Je suis aimé, je suis pardonné, je suis enfant de Dieu, je suis habité par le Saint-Esprit. Et c'est avec cette identité que je veux vivre. Pas avec « je dois faire plus », pas avec « je dois être apprécié », pas avec « je dois prouver », pas avec « je dois prier davantage », »,« je dois être reconnu », etc. Non, je suis. Puis ça nous rappelle aussi ce « je suis » des passages célèbres de la parole. Et je ne pouvais pas finir sans une parole de l'évangile de Jean. Le Saint-Esprit fait bien les choses. Jean 15, verset 9. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Il dit demeurez dans mon amour, Jésus. Tu ne peux pas demeurer dans un endroit où tu n'es jamais entré. Et Jésus te demande de demeurer, parce que le voile a été déchiré, parce que tu es entré, parce que maintenant tu es dans sa présence. Et bien tu peux être imprégné parce que tu demeures. Tu as reçu le Saint-Esprit. Alors ma prière, c'est ça, c'est qu'on puisse obéir à cette injonction du Seigneur. Demeure dans mon amour. Le Père nous a aimés, le Fils nous a aimés. Il ne reste plus qu'à demeurer dans son amour. Et quand on demeure, ben l'Esprit va imprégner le reste de notre être. Âme et corps. L'âme va se renouveler, les pensées vont changer, les émotions vont guérir. La volonté va s'aligner. Le fruit va apparaître. Et autour de toi, c'est le parfum de Christ qui va s'élever. Parce qu'on ne fait pas ça que pour nous-mêmes. Bien sûr qu'on a tous besoin de guérison intérieure. Mais tout ça, c'est pour que le parfum de Christ se révèle à travers nous. À travers ces vases ébréchés que nous sommes. Que cette lumière puisse luire. Que ce parfum puisse se répandre. Je ne veux pas demander au Seigneur aujourd'hui, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'aimes plus ?» Je veux juste lui demander, « Seigneur, qu'est-ce qui en moi refuse encore de croire que je suis aimé et que ton amour est suffisant ? Qu'est-ce qui m'empêche ?» C'est à ça que nous devons passer à l'épreuve du feu. Quelle pensée doit être renouvelée ? Quelle peur je dois abandonner? Quelle blessure je dois remettre au Père? Quelle recherche d'approbation je dois déposer? Qu'est-ce que je dois déposer? Quelle performance je dois abandonner? Quelle condamnation je dois laisser aux pieds du Seigneur? Et surtout, écoutez cette parole. Ma grâce te suffit. Pas demain. Aujourd'hui, pas quand tu seras parfait, je répète, aujourd'hui, parce que Jésus, il a déjà tout vaincu. Le voile a été déchiré, l'accès a été ouvert et l'Esprit t'a déjà été donné. Et parce que tu es déjà aimé, toutes ces choses arrivent. Toutes ces choses arrivent. Et arrête de courir. Arrête de chercher. Juste demeure. Demeure. Reçois. Laisse l'Esprit imprégner ton âme. Parce que finalement, ce à quoi on est appelé, c'est et des chrétiens et des petits Christ. On est appelé à porter celui qui a déjà tout accompli pour nous. Il a déjà tout accompli. Alors frères et sœurs, que ces vérités descendent vraiment dans nos cœurs et que le Seigneur puisse faire une œuvre nouvelle, une œuvre de renouvellement de notre intelligence, une œuvre de restauration des cœurs, restauration des émotions, restauration de tout ce qui aujourd'hui empêche l'Esprit de venir imprégner notre être tout entier. Seigneur, nous voulons demeurer en toi et nous avons confiance en toi. Nous avons cette confiance, cette foi, cette ferme espérance des choses qu'on espère. Alors oui, Seigneur, fais cette œuvre. Nous croyons, Seigneur, que tu sondes les cœurs et que tu sais toutes choses, et que tu vas restaurer toutes choses, et que tu restaures dès maintenant toutes choses pour la gloire de ton